Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Fan de rock progressif. Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 2 mai 2025. Le Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, jusque-là occupé par des expositions temporaires de la Ville de Québec, deviendra une maison de la BD. Le projet pilote de 2 ans est une première étape alors que la Ville songe à déléguer à des organismes les 3 autres maisons patrimoniales qu'elle occupe. La Maison de la BD est un espace dédié au 9e art avec plusieurs œuvres originales et des activités ouvertes à tous, bénéficie d'une enveloppe budgétaire de la Ville de 220 000 $ sur 2 ans. Il s'agit du seul espace du genre au Canada, selon son directeur Thomas-Louis Côté.
Donc, il n'y a pas de lieu de diffusion dédié au 9e art au Canada. Dès les débuts, lorsque j'ai vu ce qui se faisait ailleurs en termes de lieux dédiés à la bande dessinée, je trouvais que ça manquait. C'est mon constat, mais c'est le constat de beaucoup de gens qui, même avant moi, ont voulu un lieu comme ça.
L'expo présente des belles pièces fournies par différents partenaires, d'abord des particuliers, à commencer par...
Notre journaliste Alice Zanetta s'est rendue sur place. Pour entendre son reportage, rendez-vous dans la section Actualité du CKIAFM.org. Le livre lauréat 2025 d'Une ville, un livre va au livre jeunesse Bienvenue au parc de l'horreur de Magali Laurent, publié chez Ozu Québec. C'est après délibération par les 5 jeunes lectrices et lecteurs du Machin Club que le choix a été déterminé. Le jury de 5e, 6e année et de premier cycle du secondaire a souligné la qualité du livre et la capacité de l'écrivaine de Québec à nous faire plonger dans un univers effrayant. Le vernissage de l'exposition No Wave, la toute première exposition solo de Marie-Claude Lepied à Québec, sa ville natale, a lieu à compter de 17h aujourd'hui au Centre d'artistes multidisciplinaires L'Œil de Poisson. Avec cette exposition, Marie-Claude Lepied cherche à créer un espace où la liberté artistique flirte avec l'anarchie sociale, un univers à la fois ludique, chaotique et profondément instinctif. L'exposition mêle peinture, sculpture sonore et vidéo dans un environnement éclaté où l'humour côtoie l'excès désinvolte. L'Œil de Poisson est situé au 580 Côte d'Abraham. La collecte verte fête en grand sa 25e édition en déménageant dans un espace plus accessible et convivial. C'est dans le stationnement arrière de l'espace communautaire Desjardins, sur le boulevard Lormière, que les citoyens pourront disposer écologiquement, dimanche, de leurs vieux appareils électriques, informatiques et électroniques. Le chapiteau est ouvert à tous de 10h à 16h, citoyens ou entreprises, au 5720 boulevard Lormière, beau temps, mauvais temps. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. ayant hérité de quelques acres de terre, un jeune homme de mes connaissances me dit qu'il envisageait volontiers de vivre comme je vivais moi, s'il en avait les moyens. Je ne souhaite en aucune façon qu'aucune personne adopte mon mode de vie, pour quelque raison que ce soit, car, outre le fait qu'il se pourrait fort bien que, le temps que cette personne apprenne à vivre comme je le fais, j'eusse trouvé pour moi-même un nouveau mode de vie. Mon vœu est qu'il existe en ce monde autant de personnes différentes que possible. J'aimerais au contraire que chacun mette grand soin à découvrir quel est le mode de vie qui lui convient en propre, puis à mener les actions nécessaires pour le mettre en pratique plutôt que de copier celui de son père ou de sa mère ou de son voisin. Ce jeune homme peut bien construire ou semer ou s'en aller voguer sur toutes les mers du monde tant que rien ne l'empêche de faire ce qu'il me dit vouloir faire. Comme celle du marin ou de l'esclave fugitif, gardant le regard fixé sur l'étoile polaire, notre sagesse ne tient qu'à la vertu d'un cap mathématique. Mais ce point de mire est un guide suffisant pour notre vie entière. Il se peut que nous n'arrivions pas à bon port en un temps calculable, mais nous nous efforçons de rester sur le bon cap.
Ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire. Sa trace, écrire la messie vaste, il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire. À mon égard dans la nuit noire.
Emerson vous appelle l'arpenteur des tempêtes.
Je ne mène pas une vie tranquille de désespoir. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire la messie vaste, il faut écrire le jour, la nuit, ce que le cœur nous dit. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire la messie vaste, il faut écrire, choisir la vie.
Sera. Si
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, je vais faire un compte-rendu de livre que j'ai lu, le livre du forestier Peter Vollenben. C'est lui qui a écrit « La vie secrète des arbres ». Il vient de sortir un livre que j'ai trouvé intéressant. En tout cas, je vais vous en parler tantôt. Puis, dans l'actualité, il se passe tellement de choses. M'étourdi, là, j'ai retenu l'article. Parce qu'on a eu évidemment les élections cette semaine, l'élection fédérale, ça a pris beaucoup d'espace dans les médias. On a eu en plus la mort du pape la semaine dernière. Puis ça, c'est sans compter toutes les annonces qui viennent de nos voisins américains, qu'on a de la misère à suivre. Tout ce qui est annoncé à chaque jour, puis qu'il y a des impacts. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai retenues. C'est un article du Devoir d'aujourd'hui, dans le fond, vendredi 2 mai. Un texte d'Alexandre Shields, « Exploiter les fonds marins en dépit des règles internationales. Le gouvernement américain veut lancer des projets d'exploration sous-marine pour l'extraction minière sans attendre le résultat des négociations mondiales. Donald Trump fait fi de la communauté internationale avec cette décision d'aller de l'avant avec l'exploitation minière des fonds marins malgré l'absence de règles pour encadrer cette nouvelle industrie qui pourrait représenter des risques environnementaux importants pour la planète. Après avoir essuyé de vives dénonciations de groupes écologistes et de scientifiques, le président américain s'est attiré les critiques de l'Autorité internationale des fonds marins. Cette organisation de l'ONU compte 168 États membres et elle négocie depuis plus de 10 ans la mise en œuvre d'un éventuel code minier censé encadrer l'exploration minière des fonds marins. Aucun État n'a le droit d'exploiter unilatéralement les ressources minérales des fonds marins en haute mer, en dehors du cadre juridique établi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, a prévenu le secrétaire général de l'AIFM, Laetitia Carvalho, par voie de communiqué. J'espère sincèrement et j'invite le gouvernement américain à concentrer ses efforts sur le développement d'un rôle de leader en matière d'extraction minière sous-marine via les cadres institutionnels et légaux internationaux, a ajouté la secrétaire générale de l'AIFM, mettant en avant, dans le cas contraire, les risques liés à toute action unilatérale pour les relations internationales et la sécurité des investissements. C'est que cette pratique-là, on ne sait pas là, les impacts au niveau des océans, on dit des risques pour les océans. L'AIFM est plus que jamais au cœur d'un débat qui prend de l'ampleur, qui oppose deux visions de l'avenir des océans, celle prônant la protection des fonds marins, celle prévoyant l'exploitation des minéraux qu'on y retrouve, notamment au nom de la transition énergétique. Les pays réclamant une pause de précaution sont soutenus par plusieurs scientifiques spécialistes des océans et de la biodiversité, mais aussi par des groupes écologistes qui militent pour la protection de ces écosystèmes fragiles et souvent peu connus en raison de leur éloignement des côtes et de la grande profondeur des zones confrontées. Les experts de l'unité d'étude des écosystèmes profonds et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ont en outre déjà fait une mise en garde contre les répercussions potentielles de cette industrie. Destruction d'habitats, panache de particules, bruit, vibrations, remise en circulation de sédiments et de composés toxiques qui pourraient voyager sur de très grandes distances. En tout cas, c'est un débat à suivre. Là, on pense commencer à faire l'exploitation minière du fond des océans. Et un peu en préparatif avec le compte-rendu que je vais vous faire en début d'émission. Ensuite, on va revenir sur Taureau. Bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, en plus vers la fin d'émission. Le livre que je vais vous lire, comme je vous disais, que je vais vous faire un compte-rendu, le livre de Peter Vollenben, on a eu un compte-rendu dans Le Devoir de lundi dernier. Dans le titre du texte, c'est « Renouer avec nos instincts pour protéger la nature ». Le devoir a rencontré l'auteur allemand Peter Wollenben, qui publie « Notre héritage sauvage ». Alors, c'est le livre que je veux vous présenter aujourd'hui. Adolescent à la fin des années 70, Wollenben dévorait avec avidité toutes les informations qu'il pouvait dénicher sur les cétacés. Celui qui allait devenir ingénieur forestier puis essayiste se délectait d'enregistrements du chant de la baleine à bosse. À l'époque, ces doux géants, proches de l'extinction, commençaient à sérieusement attirer la sympathie du public. En 1986, la plupart des États décidèrent d'interdire la chasse commerciale à la baleine. Le principal motif, selon Wollenben, une émotion forte, la pitié. Comme quoi la raison du cœur finit parfois par l'emporter. L'histoire est tirée de Notre héritage sauvage, édition Multimonde 2025, le plus récent essai de Peter Wollenben, à qui l'on doit La vie secrète des arbres, un immense succès commercial publié dans sa version originale allemande en 2015, dont la trentaine de traductions cumule plus d'un million de ventes dans le monde. Au lieu des arbres, la nouvelle proposition de l'écrivain met l'humain sous les projecteurs en posant la question suivante. Comment notre nature profonde, nos instincts, peuvent-ils nous aider à mieux prendre soin de la planète plutôt que de la ruiner? Nous sommes tous guidés par nos instincts. Si vous voulez rendre l'action climatique plus sexy, il faudra y faire appel, dit le grand gaillard venu recevoir à Montréal le prix Planète Littérature du Festival Métropolis Bleu samedi dernier, décerné pour l'ensemble de son œuvre. Les émotions sont la langue de nos instincts. Elles transportent les désirs qui y sont associés jusqu'à notre conscience, ajoute-t-il en entretien avec le devoir. Solliciter la raison ne suffira donc pas à convaincre les bêtes que nous sommes de manger moins de bœuf, même si les statistiques sur les effets néfastes de l'élevage bovin ne manquent pas. Selon Wollenben, l'action écologique actuelle est un échec. Pour y remédier, il faudra renouer avec notre animalité. La tâche s'annonce complexe. Si certains instincts nous poussent à chérir la nature ou à faire voir des gestes altruistes, d'autres favorisent la surconsommation et l'oisiveté. Il s'agira donc de tirer sur les bonnes manettes émotionnelles. Alors, je trouvais que le sujet méritait d'être regardé. J'ai lu son livre. Alors, on prend une pause musicale, puis je vous reviens avec mon petit compte-rendu. Thank you. C'était Yann Tiersen, la valse des monstres que vous avez reconnue, tirée de la trame sonore du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Avant ça, on avait eu, comme d'habitude, Richard Séguin. C'était Promenade sur le chemin de Walden, de son album Retour à Walden. Puis, comme d'habitude, j'ai lu un extrait justement de Walden d'Henri Tavitoro en début d'émission. Alors, c'est ça le livre dont je vous parle. C'est le titre, c'est Notre héritage sauvage de Peter Wohlleben, Wohlleben. C'est un Allemand. C'est un forestier allemand puis, qui s'est rendu célèbre là, avec son livre La vie secrète des arbres. Il s'est intéressé aux arbres. C'est un livre qui parle de liens, justement. Puis c'est la thématique générale de notre émission cette année, les liens. Et ce qu'il nous explique dans son livre, c'est que les arbres c'est pas des individus séparés, déconnectés. Ils sont en lien avec les autres, sont en lien aussi avec la vie souterraine. Et plus qu'on pense, même, lui, il prétend que les arbres communiquent carrément entre eux. Et dans son livre ici, son dernier livre, comme je vous disais, il s'intéresse à l'homme en fin de compte, c'est une réflexion sur qui sommes-nous, c'est quoi notre identité. Et ça reprend un peu le thème que je vais reprendre probablement d'ici la fin de la saison avec notre ami Rajoul là, qui est venu il y a quelques semaines, qui avait une réflexion sur l'identité. En fin de compte, ce que Wohlleben nous dit, puis ce que Rajoul nous dit, notre vraie identité, nous faisons partie de la vie, nous sommes des terriens, comme toute la vie qui nous entoure. Nous faisons partie de la vie, nous sommes terriens avec tout le restant de la vie. Et voilà, alors, le livre commence comme ça. Ici, il existe un vaste groupe d'êtres vivants organisés en société qui élargit sans ménagement son espace vital et le modifie jusqu'à faire disparaître un nombre considérable de fascinantes espèces animales, rhinocéros, éléphants, et d'autres encore doivent leur céder la place et s'éteignent à grande échelle. Non, je ne parle pas des humains, mais des arbres. Ces derniers passent pour des géants de bon air alors qu'ils sont capables, s'ils s'associent entre eux, de modifier des paysages entiers à leur profit. Des végétaux qui s'imposent au point d'éliminer des animaux, c'est effectivement possible, et ce, de manière très subtile, par un affaiblissement progressif de la luminosité au sol entraînant une forte réduction des herbes et graminées dont se nourrissent les herbivores. Il n'est pas nouveau sur notre planète que des êtres vivants jouent des coudes et, ce faisant, chamboulent tout. Même les créatures les plus infimes participent de ce mouvement. Il y a environ 3 milliards d'années, les bactéries ont provoqué une catastrophe en produisant de l'oxygène, un poison mortel pour la majorité des espèces de l'époque, ce qui a entraîné leur extinction. Mais dans le même temps, elles inaugurèrent le règne des végétaux sur la Terre et désormais, petits, les bactéries, et grands, les arbres, travaillent de concert, par exemple à la formation des nuages de pluie. Enfin, déjà, j'étais fasciné par ces interactions entre les différentes espèces et je m'interrogeais sur la place que nous occupons dans ce système, nous, les êtres humains. Nous comportons-nous comme les arbres et les animaux ou est-ce que nous ne faisons plus du tout partie de la nature? L'une des différences entre les humains et les arbres est que ces derniers, avec l'aide de champignons, de bactéries, d'insectes, et de milliers d'autres espèces construisent des écosystèmes sables qui se défendent contre les changements et ils parviennent à créer des conditions de vie relativement constantes, au moins sur quelques milliers d'années. Les forêts maintiennent le cycle de l'eau en activité, rafraîchissent l'air en été et enrichissent les sols. De ce fait, leurs moyens de subsistance ne cessent de s'améliorer jusqu'à ce que les prémices d'une ère glaciaire ou d'un réchauffement climatique viennent rabattre les cartes. Ce qui est intéressant, il nous explique que, dans le fond, la vie Et c'est pas figé, c'est en constante transformation, évolution. Et ici, si on pense en Amérique, au Québec, disons, ben quand les glaciers sont partis, il n'y avait pas de forêt. Là, c'était probablement des grandes prairies. Des grandes prairies où des herbivores occupaient le terrain, probablement qu'il y avait beaucoup d'herbivores au Québec après le départ des glaciers, mais progressivement, les arbres se sont installés et ici, au Québec, on avait une forêt primaire que nos ancêtres ont toutes coupées d'ailleurs. Mais cette forêt primaire-là, ce qui la caractérisait, c'était justement des immenses arbres avec une, comme un peu comme on voit dans les forêts tropicales, avec une cime qui bloque la lumière finalement. Alors, il y a très peu de vie au sol, dans les forêts primaires. La vie est dans les arbres. Souvent, c'est des oiseaux qui se nourrissent de fruits que les arbres produisent ou de petits mammifères. Et dans les grandes forêts, au Québec, là, cette forêt-là couvrait tout le territoire, bien, on avait. Les forêts ont fait disparaître les herbivores. Les herbivores ne peuvent pas vivre dans des écosystèmes comme ça. Alors, dans son livre, il nous met un peu à l'intérieur de ce contexte-là évolutif. On fait partie de la vie. La vie évolue, puis on est dans un contexte évolutif. Maintenant, aussi, le contexte de l'humain fait qu'il est problématique. Il dit, à l'inverse des arbres, nous exploitons la planète avec tant d'excès que même si nous jouissions de conditions climatiques idéales, nos ressources ne cesseraient de se dégrader et notre niche écologique de se réduire comme peau de chagrin. Le changement est un processus normal, mais son rythme actuel bouscule la majorité des espèces, sans excepter la nôtre. Homo sapiens a plus d'une fois frôlé l'extinction jusqu'au jour où l'évolution s'est inversée et a fait de nous les mammifères ayant le mieux réussi. Sans doute avons-nous trop bien réussi d'ailleurs. Comment on en est arrivé là? Avons-nous atteint le terme d'une longue évolution? La vie sur Terre remonte à environ 3,5 milliards d'années, peut-être 4 milliards. Elle s'est développée à partir d'organismes unicellulaires et a fini par donner naissance aux végétaux et aux animaux. Au fil de multiples péripéties d'extinction et d'apparition de nouvelles espèces, l'évolution s'est poursuivie dans le sens d'un accroissement de la biodiversité et d'une stabilisation des écosystèmes jusqu'à ce que nos ancêtres entrent en scène il y a à peu près 300 000 ans et se mettent à jouer leur rôle dans un premier temps en respectant les bonnes manières. Et puis, dans un passé relativement proche, la situation a commencé à déraper, d'abord lentement et sans changement notable, puis à une vitesse croissante, avec le résultat que nous connaissons aujourd'hui, augmentation de la population, pillage de la planète, destruction des écosystèmes. Comment une espèce de mammifère peut-elle à elle seule se montrer aussi autodestructrice? Les mécanismes de régulation naturelle ne fonctionnent-ils plus sur nous? Ce serait effectivement le cas si notre entendement nous rendait capables d'abroger les lois de la nature. Mais alors, ne devrait-il pas nous mettre en état de redresser la barre? Il semblerait que non, puisque, en dépit de nos efforts et des réglementations que nous élaborons, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, la déforestation s'intensifie et la surpêche vide progressivement les océans. J'en suis venu à penser que nous abordons les problèmes de manière erronée. Certes, les stratégies mises en œuvre, telles l'énergie solaire ou les techniques de recyclage, sont ponctuellement tout à fait probantes, mais dans l'ensemble, ces mesures ne freinent pas la consommation des ressources et le pillage incontrôlé de la nature se poursuit. À mon sens, notre erreur réside dans le fait que nous occultons complètement notre animalité et semblons croire que la solution est affaire d'entendement. Si tel était le cas, nous devrions peu à peu connaître des succès décisifs dans notre lutte contre le changement climatique et la destruction de l'environnement. Or, une grande partie de l'humanité a compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas continuer ainsi. S'il reste assurément des groupes d'individus riches et influents qui insistent égoïstement pour qu'on maintienne ce cap, dans les démocraties au moins, les solutions aux problèmes identifiés devraient pouvoir être mises en œuvre rapidement. Cela étant, les diagnostics scientifiques montrent sans équivoque que les mesures sont trop timides et trop tardives, ce qui amène des questions suivantes. Sommes-nous réellement aux commandes ou obéissons-nous, comme toute autre espèce animale, essentiellement à nos instincts? Notre population n'est-elle pas encore toujours soumise à des mécanismes de régulation naturelle? Voilà un sujet que j'aimerais explorer avec vous. Pour cela, nous établirons des parallèles entre l'homme et les animaux dans leur relation avec les ressources et les mécanismes généraux de régulation. Car si dans notre environnement vivant, l'existence, les émotions et la pensée obéissent à des règles déterminées, il est probable que celles-ci revêtent la même importance pour notre espèce. En réalité, la destruction de l'environnement par l'homme relève d'un processus naturel. Toutes les espèces animales et végétales exploitent leurs ressources au maximum et à l'heure actuelle, nous sommes particulièrement actifs en la matière, mais nous ne sommes nullement la première espèce à mettre ses chances à profit avec autant d'ardeur, causant ainsi la perte d'innombrables êtres vivants. Or, ce type de perturbation ne signifie pas la fin des écosystèmes. Il se borne à rebattre les cartes de la vie. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nature panse ses plaies et que d'innombrables nouvelles créatures entrent à leur tour dans la course. La question de notre animalité est déterminante dans la lutte contre le réchauffement climatique et la destruction de l'environnement. Pour le moment, en effet, nous tentons de régler les problèmes pressants comme si nos capacités intellectuelles nous rendaient supérieurs aux autres espèces. Commençons par reconnaître que nous sommes dans le même bateau et réfléchissons ensuite de toute urgence à d'autres stratégies, parce qu'il y en a. Elles s'adressent moins à notre intellect qu'à nos instincts et pourraient nous faire effectuer le pas décisif dont nous avons besoin pour sauver l'environnement et nous sauver nous-mêmes. Alors, c'est un peu le préambule de son livre. Il y a beaucoup de matière, c'est détaillé. Ce que j'ai moins trouvé intéressant, c'est que on approfondit pas l'idée. Là. On y va plus en surface. Alors, je comprends son idée. Il donne l'exemple, par exemple, de la surpopulation qui, curieusement, le problème de la surpopulation est en train de se régler tout à fait naturellement parce que il semblerait qu'il y a, au niveau des hommes, il y a une baisse de fertilité mondiale qu'on est en train de constater. Est-ce que c'est dû à la pollution ou à d'autres facteurs ou tout simplement à la nature qui... en nous, parce qu'on fait partie de la nature, non seulement on fait partie, on est la nature, est en train de corriger le tir. Et c'est un problème, la surpopulation qui va probablement se régler tout seul, naturellement. Et aussi par le fait que dans les pays développés, aussitôt que les gens deviennent de plus en plus éduqués, le taux de reproduction diminue en dessous du minimum. D'ailleurs, on voit ça dans tous les pays développés. Et d'ailleurs, ça pose le problème, un problème d'un autre ordre, qui est la démographie, peut aussi être problématique dans le sens que les populations vieillissent. Et si on donne l'exemple, même au Québec, c'est que les régimes de retraite, quand les régimes de retraite ont été créés dans les années 50-60, on avait 6 travailleurs pour un retraité. Et là, présentement, on est 1 ou 2 travailleurs pour un retraité. Donc là, à long terme, là, ça risque de poser problème, les régimes de retraite. Est-ce que ça va être viable? Alors, il y a des ajustements qui se font tout à fait naturellement. Mais lui, il dit qu'on devrait aller plus loin puis pousser ça un peu. C'est là que c'est pas détaillé, mais pousser ça un peu dans le sens d'inciter ces évolutions-là qui sont dans notre nature, au niveau de... Lui, il parle des instincts, de nos émotions. Il explique d'ailleurs que déjà, ça se fait parce que une bonne part de la surconsommation, c'est justement, on utilise un peu notre inconscient, c'est la publicité, les entreprises savent ça, puis utilisent pour nous orienter vers des comportements qui sont nuisibles pour la planète. Alors, c'est ça, c'est... Je vous lis encore un petit extrait, mais après ça, on va prendre une pause musicale. Il dit, « Depuis que l'essence naturelle existe, l'humain, dans les cultures occidentales du moins, se considère comme une créature à part, tellement à part qu'elle serait supérieure à toutes les autres espèces. En témoigne le jargon professionnel des biologistes qui parle d'animaux supérieurs et inférieurs, établissant de la sorte un classement fondé sur un jugement de valeur dans cette vision de la nature. L'homme se distingue donc de la foule des millions d'autres espèces. Nos ancêtres de l'âge de pierre, dont nous ne sommes pas génétiquement différents, auraient sûrement ri de cette façon de voir les choses s'ils n'avaient pas eu de toute autre préoccupation. Ils savaient qu'ils n'étaient qu'une espèce parmi d'autres et qu'ils ne leur étaient pas supérieurs et vivaient parmi elles. Certaines, d'ailleurs, les confrontaient quotidiennement à leurs limites au point que notre existence a longtemps été sur le fil du rasoir. » Alors, nous, c'est un peu une invention qu'on s'est fait, là, qui n'est pas basée sur la réalité, qu'on est des êtres supérieurs. Nous sommes des animaux et on fait partie de la vie. Et nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes la nature, au même titre que les bactéries et tous les êtres vivants qui nous entourent. Alors, on prend une petite pause musicale. Et au retour, je vais vous parler de taureaux.
Thank you. nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude! Betreten feuertrunke himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
J'ai fait jouer un petit extrait là, de l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven que j'ai été voir dernièrement dans le festival Beethoven qu'il y a eu le mois dernier. Et justement, c'est une pièce musicale qui rejoint nos émotions. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les Nations Unies voulaient en faire une espèce de hymne national mondial. Alors, c'est dans les que nous propose Wallenberg d'aller chercher les émotions pour inciter au changement, inciter à l'évolution dans le bon sens de l'humanité. Alors, c'est ça, pour terminer l'émission, je vais vous lire quelques extraits du très beau livre de Colette Poggi, Taureau, Yogi des Bois. C'est Colette Poggi, P-O-G-G-I. Madame Poggi, c'est une spécialiste de l'Inde, de la spiritualité indienne. Et elle fait un parallèle entre les écrits de Taureau, la vie de Taureau et la philosophie indienne. D'ailleurs, Taureau avait lu les textes, les grands textes sacrés de l'Inde. Et ces textes-là venaient d'être traduits. Et dans les premiers Nord-Américains à avoir pris conscience de ces textes-là. Alors, je vous lis quelques extraits du livre de Madame Poggi. Alors, depuis son enfance, quand Taureau se laisse aller à rêver, c'est la forêt qui surgit en lui. Cette promesse de liberté, de vie intense, d'unité avec le vivant, il la ressent comme un pacte avec l'univers. Un navigateur verra l'océan, un peintre les formes et les couleurs, un musicien les sons et les rythmes. Pour ce yogi des bois, la forêt n'est pas un en dehors, mais le tréfonds de son être. Par sa croissance et son renouveau incessant, elle éveille en lui le sentiment de l'originel. Tout a commencé dans un espace qui lui ressemble, infiniment varié, interconnecté, que seuls les sages et les poètes savent vénérer. De la terre au ciel, la forêt, symbiose de tous les éléments, est son infini, sa plénitude, le ferment inépuisable de son imaginaire. Elle abolit les distances et les durées. Sans se mouvoir, il atteint le Gange, converse avec les sages védiques ou taoïstes. Quittant la circonférence du temps, il approche du centre, hors du temps. Et cette capacité à s'immerger dans la vie sauvage fait de lui l'ami inconditionnel des Amérindiens, le confident des hulottes et des arbres sans âge. Ma réflexion vise à montrer que c'est par le sauvage que le monde est sauvé. Nous abritons en nous un sauvage. Un mantra qui l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. Indien, Indien, qui signifie pour lui la simplicité et le naturel, la vie libre en accord avec la nature. Quand ici, Indien, c'est les Indiens d'Amérique. Taureau était fasciné par les Premières Nations. Puis il a fait beaucoup de recherches. Il n'a pas publié, mais il a écrit beaucoup de textes qui n'ont jamais été publiés, là, qui existent sur les Premières Nations. Taureau emploie souvent le terme « wild », sauvage, qui résonne pour lui comme la vérité des bois. Mais dans quel sens entend-il ce terme? Il est évident qu'il ne cherche aucunement à effacer la présence des Amérindiens. Pendant de nombreuses années, il leur a en effet consacré une étude ethnologique à sa manière de plus de 2000 pages, non intégralement publiée à ce jour. Cependant, comme le remarque à juste titre Estelle Zong-Mengual dans son essai « Apprendre à voir », la notion de « wilderness » mérite d'être révisitée. Elle cite à ce propos l'historien environnemental William Cronon. Le « wilderness » est cette construction mythique étrange selon laquelle les terres américaines, avant la colonisation par les pionniers, étaient des terres vierges, intactes, inhabitées, non travaillées. C'est contribuer à effacer les Amérindiens comme habitants de ces territoires et présenter ces terres comme disponibles et ainsi légitimement appropriables. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans son livre, Peter Vollenben, dans son livre « Notre héritage sauvage », il sort beaucoup de choses que je n'avais jamais entendues. Puis, entre autres, il explique qu'on voit toujours... Les forêts tropicales, surtout la forêt amazonienne, comme un endroit uniquement occupé par la forêt, comme vide et sauvage. Mais on sait qu'il y a déjà des groupements humains qui vivent à l'intérieur de la forêt, mais il semblerait que dans le passé, avant l'arrivée des colons blancs, des colonisateurs, des Européens, il y avait même des immenses villes. Et c'est en survolant la forêt avec des sondes, des radars, on a pu détecter qu'il y avait des immenses villes. Donc, la forêt tropicale a déjà été habitée de façon très intense par les peuples amérindiens qui étaient déjà là depuis longtemps. Une telle pensée est diamétralement opposée à l'approche de Taureau. Certainement le premier à s'intéresser d'aussi près au mode de vie des Indiens en harmonie parfaite avec la nature. Au cours de ses pérégrinations, il est à l'affût de pointes de flèches dormant sous la terre. Lorsqu'il laboure son champ, perçoit la présence de cendres issues de leur feu mêlées au motte qu'il soulève. Pour ce yogi insolite, vivre en forêt n'est en rien synonyme de mortification. C'est tout le contraire. Cela signifie partir à la rencontre de la vérité, ou plutôt des vérités plurielles, celles du vivant. Alors, c'est ça. De la faune, de la flore, du minéral, du cosmos et surtout de soi-même. Il s'agit d'un épanouissement de cette part cachée de l'être, toujours enfouie sous les couches multiples et, hélas, inconsciente des conventions. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va conclure l'émission là, avec Taureau.
Thank you.
peu de musique indienne de sitar. C'était la pièce s'appelle Raga Samarpan. C'est ça vient du CD Inde, gloire et splendeur, Terra Humanita. Alors, je poursuis avec le livre de Madame Poggi, Taureau Yogi des Bois. Pour les yogis, la forêt ou la clairière sont des entre-deux. Ce thème désigne un espace intermédiaire se déployant entre l'individu et le monde. Pourquoi ce désir d'espace, de changer d'espace? L'un des thèmes les plus représentatifs de la réflexion indienne sur l'existence exprime ce sentiment d'être décentré, d'évoluer dans un pays, dans un espace inconfortable et disharmonieux. Ce malaise plus psychique que physique, est le terme clé de l'hindouisme comme du bouddhisme. Le diagnostic unanime des yogis concernant la condition humaine, même recouvert sous d'innombrables divertissements, des illusions de toutes sortes, un mal-être, dukkha, entre l'être humain. Rien ne peut effacer l'oubli de sa finitude. Tant qu'il s'identifie à un moi, une confuse souffrance veille sous la cendre. Confronter ce mal-être en s'extrayant du monde quelque temps, le temps nécessaire, est un moyen de comprendre ce qu'il se passe. Dans le Mahabharata, les Pandavas se retirent dans la forêt pendant 12 ans. Cette abdication devient un temps de méditation. L'exil dans la forêt devient l'apprentissage de la liberté. Ce qui est vu par certains comme un retrait du monde peut être également considéré comme un temps de réflexion, de préparation pour affronter le monde. Alors, l'appel de la forêt se met à chuchoter que quelque chose d'autre est possible, une autre manière de sentir, de penser, d'aimer, de vivre. Au lieu d'être décentré, l'être s'oriente vers l'espace du vivre et s'y relie harmonieusement. L'être s'oriente vers l'espace du centre et s'y relie harmonieusement. Le préfixe sanskrit « doux » a donné 10 et 10. Il exprime l'idée d'une difficulté mal centrée. Le préfixe « sous » qui a dérivé « eux » et qui a pour dérivé « eux », « euphorie » ou « euphonie » suggère un sens positif, « heureux, bon ». Le nom « ka » est polysémique. Il désigne l'espace médian, le vide central de la roue ou l'espace céleste infini. Pour résumer, « dukkha », souffrance, mal-être, suggère un état disjoint séparé du centre. « Ka » dans son opposé, « sukkha », il évoque un état bien relié, un espace heureux. Alors, on termine l'émission en parlant de liens, d'être bien relié. La semaine prochaine, on va parler de l'Anthropocène avec un historien des sciences. On va parler du concept d'Anthropocène. Et la semaine suivante, on va parler d'éthique animale avec l'ancienne journaliste du Devoir, Odile Tremblay, qui va nous parler de son dernier livre sur les animaux. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec